Pourquoi, ô Éternel, pourquoi nous fais-tu donc errer loin des voies que tu as prescrites? Pourquoi rends-tu notre cœur obstiné de sorte que nous ne te craignions pas? Reviens de grâce pour tes serviteurs et les tribus qui t'appartiennent. Ton peuple saint a possédé le pays pour bien peu de temps. Nos ennemis ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes depuis bien longtemps comme des gens sur qui tu ne régnerais pas, qui ne porteraient pas ton nom. Oh, si tu déchirais le ciel et si tu descendais, devant toi les montagnes s'effondreraient. Comme le feu consume les taillis et fait bouillonner l'eau, ainsi tu ferais connaître ton nom à tous tes adversaires et tous les peuples trembleraient devant toi. Si tu accomplissais des actes redoutables que nous n'attendons pas, oui, si tu descendais, devant toi les montagnes s'effondreraient. Jamais on n'a appris ni jamais entendu, jamais un œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi ait agi en faveur de qui compte sur lui. Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et tient compte de toi pour suivre les chemins que tu prescris. Mais tu t'es irrité, car nous avons péché. C'est sur ces chemins de toujours que nous serons sauvés. Nous sommes tous semblables à des êtres impurs. Toute notre justice est comme des linges souillés. Nous sommes tous flétris comme un feuillage. Nos fautes nous emportent comme le vent. Personne ne t'invoque, personne ne se ressaisit pour s'attacher à toi. Car tu t'es détourné de nous. Et tu nous as fait défaillir sous le poids de nos fautes. Et pourtant, Éternel, toi, tu es notre Père. Nous, nous sommes l'argile et tu es le potier qui nous a façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. Ne sois pas courroucé à l'excès, Éternel. Voici, tes villes saintes sont dépeuplées. Sion est un désert, Jérusalem est désolée. Notre saint temple, qui était magnifique, où nos ancêtres te louaient, est devenu la proie des flammes. Et tout ce qui était cher est désormais en ruine. Face à tant de misère, peux-tu, ô Éternel, demeurer sans rien faire et garder le silence? Vas-tu nous humilier encore, au-delà de toute mesure?
Merci Anne-Sophie pour la lecture du passage. À la prière. Seigneur, oui, avec humilité et reconnaissance, nous voulons accueillir ta parole dans nos cœurs. Saisis-nous par ton Saint-Esprit afin de nous rendre conscients de ce qu'elle vient toucher dans nos vies et donne-nous ce bonheur de nous laisser transformer par elle. Amen. Alors, il est d'usage théologique de qualifier Ésaïe comme le plus grand des prophètes. Le plus grand déjà sur la forme stylistique et par ses qualités d'écriture, ces textes étant parmi les plus admirables de la Bible. Le plus grand par la substance de ses prophéties, par la durée qu'elles recouvrent et par l'importance des événements qu'elles décrivent dans l'histoire des Hébreux. Ésaïe est remarquable par le maintien de ses convictions et l'intégrité de ses messages, autant dans l'adversité que dans l'acceptation. Il est le prophète également le plus cité dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même s'attribuant une de ses prophéties quant à sa messianité. Alors, en considérant ce capital respect de notre présentation de ce prophète, nous pouvons nous sentir quelque peu embarrassés avec la consistance de ces lignes qui comportent quand même quelques concepts surprenants, tant sur la forme que sur le fond. Pour guider notre réflexion, il me semble déjà important de cerner notre vision du prophète en général. Et je parle bien de vision et non de définition, car bien malin qui pourrait définir le prophète au sens strict du terme. Étymologiquement, bien sûr, c'est celui qui parle de la part d'une divinité, avec une connotation en général marquée sur la prédiction d'événements futurs. Alors on discerne bien le schéma de fonctionnement du prophète dans la Bible. Dieu se révèle au prophète pour qu'il annonce une parole particulière pour le présent ou dans l'avenir. Et le prophète n'a plus qu'à délivrer son message au destinataire, peuple, roi, individu. Mais c'est un peu le job de rêve dont personne ne veut. Parce qu'en théorie, la proximité avec Dieu, sans les contraintes protocolaires des prêtres, dans la pratique, c'est plutôt la persécution, les menaces, la solitude, la pauvreté. Selon les occurrences des recherches Google, vous pourrez tester si vous voulez, le plus grand prophète des temps modernes a été le dirigeant d'une certaine marque dont le logo est un fruit un petit peu croqué. Mais, quels que soient les talents de cette personne, dont le prénom commençait par un S, qu'annonçait-il si ce n'est ce qu'il était capable de produire ? À qui l'annonçait-il si ce n'est un public conquis par ses produits ? Et surtout, de la part de qui prophétisait-il, si ce n'est pour son intérêt, ou au moins celui de son entreprise ? Il n'était finalement que le prophète de lui-même, et par son image scénarisée par ses collaborateurs, appelée d'ailleurs non pas par hasard, évangéliste. La complexité de la situation de notre passage montre un tout autre visage de celui qui annonce les paroles de Dieu. Ésaïe se devait d'assumer un rôle pas aussi populaire que notre exemple dont le nom de famille commençait par un J. En opposition aux nombreuses prophéties extraordinaires proclamées par Ésaïe, ce passage dans son contexte nous montre une lamentation, un mélange de nostalgie de la grandeur d'un royaume disparu, avec un sous-entendu à peine voilé sur sa trop courte durée, d'un exil d'une terre pourtant autrefois promise, d'un abandon de la part de Dieu lui-même envers son peuple. Le tableau de ce passage est donc une nature morte, une situation figée, vide de sens et de perspective pour un prophète en terrain miné, car que peut bien annoncer un prophète une fois la catastrophe réalisée ? Que peut bien proclamer un prophète en mal d'inspiration, sans aucun signe de la part de Dieu d'une promesse de changement ? Et le premier malaise de ce texte, à mon sens, provient bien du sentiment d'humiliation, d'impuissance d'Ésaïe à qui Dieu semble ne plus rien communiquer, qui n'a plus rien à annoncer à un peuple qui, quoi qu'il en soit, ne lui prête plus guère d'attention. Cette situation plus qu'inconfortable nous conduit à explorer l'intériorité de ce passage et à analyser l'intimité entre Dieu et Ésaïe. Ou plus exactement, d'ailleurs selon le texte, entre Dieu et une partie du peuple de Juda qui languit après l'action de l'Éternel et auquel Ésaïe s'associe. Pour savoir si c'est le prophète qui est le porte-parole de ces personnes ou si Ésaïe s'adresse à Dieu en leur nom, entrer dans cette dimension relationnelle est une source d'inspiration pour nous, chrétiens du XXIe siècle, loin du schéma entre Dieu et son prophète mentionné précédemment. Ce passage est construit comme un réquisitoire, et il introduit donc au départ des éléments factuels. Dieu a des objectifs existentiels avec son peuple, celui-ci manque ses objectifs et en subit d'inévitables conséquences. Mais il alterne les faits établis et la repentance attendue avec l'attribution d'au moins une part de responsabilité à Dieu lui-même. Pourquoi endurcis-tu notre cœur ? Ou, un peu plus loin, tu nous as caché ta face. Cette rhétorique heurte peut-être notre conception de la justice divine, surtout telle qu'elle est exprimée dans l'Ancien Testament. Elle est pourtant une clé qui nous permet de quitter le couloir de la loi pour ouvrir la porte de la foi. Et ce qui ne pourrait être qu'une allusion ponctuelle s'en trouve au contraire surenchéri par la tonalité globale du texte. Il est comme une injonction envers Dieu qui se devrait de limiter les conséquences des fautes du peuple parce qu'il est son peuple, justement. Ésaïe en appelle à la nature même de Dieu en lui faisant remarquer qu'il ne fait pas très bonne figure de ne pas intervenir face à la dévastation de tout ce qui se réfère à son peuple. Comme si Ésaïe et ses fidèles attachés à l'Éternel pouvaient comme donner mauvaise conscience à Dieu lui-même, à la fois sur le fait qu'il y va quand même peut-être un peu fort, et sur la piètre image qu'il donne au monde, puisque tout ce qui lui est lié est en ruine. Dans notre contexte temporel et culturel, on ne réalise peut-être pas la force et l'audace de ce type de passage. Une audace à la limite de la provocation, qui n'est pas sans rappeler un certain Abraham, plaidant pour la ville de Sodome. Alors je vous invite à lire ultérieurement Genèse 18, Un passage qui nous décrit Abraham, d'habitude plutôt craintive et plutôt soumise, aller marchant dans une ville que Dieu avait annoncé vouloir détruire. Et Dieu écoute. La plaidoirie d'Abraham est le passage fondateur d'un concept clé dans la tradition judaïque, celle de juste, juste des nations, vous avez peut-être entendu cette expression, de tzaddik. Par-delà la justice de Dieu, Abraham a plaidé pour ses contemporains, pourtant a priori opposés à Dieu. Ce concept englobe ceux qui plaident en humanité et non en assemblance pour leurs contemporains, même s'ils ne leur ressemblent pas, donc, voire même si leur ennemi. C'est cette même notion qui perdure jusqu'à aujourd'hui, désignant notamment tous ceux qui ont sauvé des Juifs pendant la Shoah, honoré notamment à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem. Toute une partie de ce complexe bouleversant est un jardin composé d'arbres et de stèles à la mémoire de tous ceux qui, individus, institutions, voire même villages entiers, ont sauvé les vies de ceux qui ne leur ressemblaient pas, au péril d'ailleurs de leur propre existence. La tradition rabbinique nous éclaire sur un second élément à ne pas minimiser, que je trouve intéressant dans ce passage, le fait que dans le judaïsme, le priant s'exprime debout, face à Dieu, comme une manière d'oser confronter notre nature humaine à la nature divine. Comme chercher à entrevoir celui qui ne peut pas être vu, comme oser s'approcher d'un Dieu décidément trop saint pour nous. Et si ces deux notions nous aident à cerner la démarche d'Ésaïe et des hommes pieux qu'il représente, Ésaïe renforce encore l'impression de confrontation en s'adressant à Yahvé dans les textes les plus anciens, c'est-à-dire l'absolu, le « je suis celui qui suis », le seul, le tout, la source de toute vie, Dieu dans tous les sens de sa divinité. Tandis qu'Abraham, dans sa plaidoirie, s'adressait à Dieu par son qualificatif d'Adonai, le nom usité pour décrire la proximité, la bonté de Dieu, celui à qui rien n'est impossible. Ésaïe confronte donc son vide substantiel à l'absolu de Dieu. En ce sens, il est certainement un exemple pour l'expression de nos prières. Parlons-nous à Dieu d'une manière entendue, fataliste, en abnégation peut-être, sous couvert d'un respect légitime. Réfrénons-nous l'expression de notre colère, de nos doutes, comme si Dieu ne les voyait pas. Ce qu'on pourrait presque qualifier de comportement inacceptable est encore une fois, d'après la tradition rabbinique, au contraire agréé par Dieu et même la raison qui l'a conduit à attribuer la paternité du peuple d'Israël à Abraham, l'avocat de tous, au détriment notamment de Noé, par exemple, le seul juste de sa génération, mais dont aucune mention de prière pour l'humanité dans son aspect universel n'est évoquée. Ésaïe et le reste fidèle à l'Éternel ne plaident pas juste pour se sauver eux-mêmes, mais pour le peuple entier, y compris pour ceux qui se sont détournés de Dieu ou qui ne lui manifestent qu'indifférence. Mais alors, me direz-vous, pourquoi plaider pour l'autre ? Force est de constater que dans la Bible, la foi personnelle, toute intimité forte avec Dieu, même dans l'Ancien Testament, inclut forcément la dimension de l'autre, de tout autre. Car au-delà de tout formalisme religieux, de tout le décalage culturel et social qui nous met parfois mal à l'aise avec les récits primitifs, nous pouvons toujours y voir l'empreinte indéfectible de la grâce de Dieu. Tout héros de la foi avait compris et s'était approprié cet élément fondamental de la nature de Dieu, sa grâce, comme mise en perspective de sa justice. Et ce, quelles que soient ses actions, son caractère, ses désobéissances. Plaider pour l'autre serait donc comme un lien qui nous lie en humanité avec notre prochain, comme une manifestation de la reconnaissance de l'universalité de la grâce de Dieu, celle qui a conduit à la venue sur terre et au sacrifice de Jésus, non pour juger l'humain, mais bien pour le sauver. Ésaïe connaît la nature du Dieu Adonai invoqué par Abraham, mais il s'adresse à Dieu Yahvé pour montrer non seulement qu'il reconnaît qu'il est la source et l'auteur de toutes choses, mais que cette toute-puissance est indissociable de la grâce, de la culture de la grâce, de la culture du pardon propre à la nature même de Dieu. Ésaïe est bien loin d'une demande de pardon sous forme d'actes ritualisés. Il avait bien compris que le moyen de vivre sa grâce est incontournable de la dimension relationnelle à son Créateur. Car en fait, que demande Ésaïe à Dieu ? Alors, si on extrait les formes passives du texte pour les exprimer sous leur forme active, nous pouvons considérer quatre types de demandes particulières. La première, Ésaïe réclame à Dieu son droit d'identité, qu'on voit notamment quand il s'adresse à lui en disant « Tu es notre Père ». Ensuite, il exprime à Dieu son besoin de contenance, d'appartenance au Père, une dignité d'existence. Nous sommes l'argile, nous sommes ton ouvrage. À noter d'ailleurs l'intéressant complément à la fois de la matière première, l'argile, et de l'objet fini, ton ouvrage. Troisièmement, il formule la condition de cette dignité d'existence, couvrir la faute, couvrir les fautes. Ne te souviens pas toujours du crime. Et cette phrase très forte, bien sûr, est-ce que tu nous affligeras à l'excès ? Enfin, comme ciment de toutes ces demandes, il réclame un retour à la relation. Est-ce que tu te tairas ? Mais ces quatre éléments ne sont-ils pas liés ? Ne sont-ils pas en quelque sorte un retour à l'intention créationnelle ? Jusqu'à l'accomplissement de la réconciliation entre Dieu et l'humanité par le sacrifice de Jésus ? Par ses supplications, Ésaïe libère sa parole et s'attend à ce que Dieu libère la sienne. Il plaide en mettant Dieu face à ses responsabilités, non pas de compteur de fautes ou de grand-père fouettard, mais bien de père qui accueille son enfant par nature. C'est bien cet accueil-là qu'Ésaïe vient chercher auprès de l'Éternel, une restauration, un retour aux sources, une libération du poids de l'inhumanité liée pas seulement à nos actes, mais à l'offense structurelle, celle d'Adam et Ève, celle de priver Dieu d'une relation en plénitude avec l'humain. Il existe en France et en Europe une loi du droit à l'oubli, ou loi dite du déréférencement, qui était signée en 2010 en France, mais sous forme de charte, car elle n'est pas contraignante. Cette loi un peu complexe définit un droit pour tout individu de réclamer un site web ou un moteur de recherche, d'effacer tout historique de recherche nuisible à son image ou toute donnée en association avec l'identité de l'individu qui pourrait nuire à son image ou au respect de sa vie privée. Au-delà de la complexité liée aux lois transnationales des différents acteurs, il s'agit concrètement de déréférencer des historiques de recherche ou des événements qui ne sont plus d'actualité, mais qui nuisent à l'individu. L'exemple fondateur, vous en avez peut-être entendu parler, c'est celui d'une médecin aux Pays-Bas qui a été radiée de l'ordre des médecins et réintégrée. Et bien sûr, les recherches web sur son nom affichaient toujours en tête sa radiation, pas sa réintégration. Voilà, droit à l'oubli, droit au déréférencement. Mais l'oubli dont parle Ésaïe au verset 8, selon les traductions, ne concerne pas l'atteinte à l'image d'un individu, même justifié. Il ne s'agit pas de faire comme si de rien n'était face à ce qu'Ésaïe lui-même qualifie de crime. Mais Ésaïe réclame bien plutôt l'existence face à la source de toute existence, le « je suis par celui qui suit », en symétrie avec l'autodéfinition de Dieu Yahvé « je suis celui qui suit ». En quelque sorte, c'est un peu le contraire de la charte du droit à l'oubli. Il ne s'agit pas de faire oublier ce qu'on a fait, de le dissimuler aux autres, mais bien de reconnaître notre Père et de se connecter à lui, quel que soit ce qu'on a fait. Cette nature de Père réclamée par Ésaïe à Dieu fait écho à notre nature d'enfant et la culture de la grâce de la part du Père aimant et prompte à pardonner fait écho à la culture du pardon telle que Jésus l'a définie dans Matthieu 18. Je vais lire les versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Le pardon de Dieu n'est pas le pardon qui oublie, mais qui donne par-dessus, qui couvre toutes nos batailles, qui pacifie nos souvenirs, qui nous rend notre dignité d'humain, d'humain créé face à son Créateur. Vous connaissez peut-être l'histoire d'Erino d'Apozzo. C'est un déporté en camp de travail à Hambourg pendant la Seconde Guerre mondiale. Le chef de ce camp eut l'idée particulièrement perverse de le faire assister à son repas de Noël, principalement pour le voir manger les gâteaux que la femme de d'Apozzo avait envoyés à son mari. Quelque temps après la fin de la guerre, d'Apozzo arrive à retrouver le domicile du chef de camp et décide de s'y rendre. Vous imaginez la tête de cet ancien responsable nazi qui, à la vue d'un ancien prisonnier, pensait que sa dernière heure était arrivée. Mais au lieu de cela, d'Apozzo, dans un geste qui néanmoins intérieurement le déchire, lui apportait simplement une boîte de gâteaux, cuisinés par sa femme, les mêmes que ceux que le chef de camp mangea un jour dans sa maison, le soir de Noël. Donner par-dessus rend à l'inhumain son humanité, et donner ainsi nous fait grandir en dignité. Voilà le pardon du Père tel qu'Ésaïe le conçoit comme étant celui du Père. Ce pardon-là ne réclame ni clémence, ni indifférence, car il y a bien asymétrie dans mon choix de donner ce que l'on m'a pris. N'est-ce pas ce pardon qui rétablit la relation pour contrer l'humiliation, qui rend digne l'offensé, qui rend son humanité à l'offenseur? Alors bien entendu, entre humains, ce processus est complexe. Chacun d'entre nous certainement l'a expérimenté d'une manière ou d'une autre. Il fait référence à nos inconscients, à notre histoire de vie. Et il ne faut pas confondre pardon, réconciliation, et le fait également de remettre sa colère légitime à Dieu sans attendre parfois le pardon de l'offenseur. Mais envers Dieu, Ésaïe réclame bien la complétude du pardon, un retour relationnel et inconditionnel. Notez bien qu'Ésaïe ne propose pas à Dieu un plan de paix, une solution durable, détaillée, pour restauration dans une situation particulière ou un lieu géographique particulier. Non, il est bien au-delà de tout cela. Il veut que Dieu lui ouvre le chemin de la libération à l'image du peuple libéré d'Égypte, dont l'objectif n'était pas tant de sortir d'Égypte que d'atteindre la terre promise, cet espace d'une vie libérée. Ce texte poignant est mis en relief par la profonde douleur qui anime Ésaïe. Douleur comme signe de conscience de l'offense envers l'Éternel et de sa pire conséquence, la rupture du lien relationnel avec lui, au moins en apparence. Comme Ésaïe, nous pouvons exprimer notre nature d'offenseur au Père, Yahvé, le Tout-Puissant, l'Absolu, Adonai, ce Dieu proche qui nous rejoint. Mais cette nature n'est nullement un obstacle à leur relation avec ce Père aimant, accueillant. Cette relation, comme base de l'identité d'Ésaïe, est rétablie pour nous définitivement par Jésus à la croix. Nous sommes justifiés, pardonnés, et ce lien tout particulier alimente notre intimité avec le Sauveur du monde, avec le Père Créateur. Notre relation à Dieu est source de la culture du pardon, à laquelle nous sommes invités, et de l'intercession envers notre prochain, quel qu'il soit. Amen. Alors je vous invite à un moment de recueillement où chacun pourra exprimer dans le silence ce que son cœur, peut-être sa douleur, lui inspirera. Et pour ce moment, je vais inviter Mégane qui va nous accompagner à la harpe sur la mélodie du psaume 130 telle qu'elle était chantée à l'époque où il fut composé et dont je vais lire les 5 premiers versets. Du fond de la détresse, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute-moi, sois attentif à mes supplications. Ô Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Moi, je m'attends à l'Éternel, oui, je m'attends à lui de tout mon être, j'ai confiance en sa parole. »